Didactique des langues étrangères.
Fremdsprachendidaktik.
Les tables rondes de Fribourg.
Die Diskussionsrunden aus Freiburg.
Mesdames et messieurs, je vous donne la bienvenue à cette cinquième table ronde déjà de cette cycle de conférences. Mon nom est Luciano Rapicavoli. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vais me présenter tout de suite avant de commencer ensuite la discussion qui est très importante ce soir sur le terme évaluation, Beurteilung. Je suis enseignant au niveau secondaire 1. J'ai travaillé pendant différentes années comme enseignant de langue et j'ai aussi été enseignant principal de classe. Pendant mes études que j'ai fait à la HEP de Berne, j'ai fait pendant mon master une spécialisation dans la pédagogie curative. Et maintenant, je travaille à l'école de Spiegel, à côté de Renitz, peut-être quelqu'un connaît ça. Et je travaille dans la pédagogie curative. Ici, à l'Université de Fribourg, je fais mes études dans la didactique des langues étrangères. Ça, c'était seulement quelques mots de ma part. J'aimerais, avant de commencer la discussion, j'aimerais présenter nos invités. Merci d'être là. J'aimerais commencer ici avec Costanza Succo. Elle est professeure associée à la HEP de Fribourg et responsable du Bureau de mobilité nationale et internationale dans cette institution. Elle donne des cours sur l'évaluation des apprentissages des élèves aux futurs enseignants, enseignantes de primaire. Ses travaux s'inscrivent dans une démarche interdisciplinaire de l'évaluation des apprentissages des élèves, articulant numérique et évaluation dans une perspective linguistique et socio-culturelle. Merci d'être là, Costanza.
Merci.
Ensuite, Nathalie, à côté de moi. Nathalie Derbe-Chapuis est maître assistante en français langue étrangère et en français langue seconde à l'Université de Fribourg, sous la direction de la professoresse Anita Thomas. Ses recherches actuelles sont basées sur l'étude longitudinale de l'acquisition du vocabulaire par des élèves allophones de la première Armos à la quatrième Armos, les premières quatre années d'école, grâce à des discussions dans des groupes de travail interdisciplinaires et au commentaires d'enseignants, enseignantes recueillis lors d'une journée de formation, mais aussi à partir de ces données de recherche, elle s'interroge sur la pertinence des évaluations sommatives notées pour le succès académique des élèves allophones. Merci Nathalie d'être là. Ensuite, de cet côté, nous avons Afra Sturm. Afra Sturm hat Linguistik und Sprachdidaktik studiert. Ihr Studium hat sie in Bremen und Zürich absolviert. Sie ist Leiterin des Zentrums Lesen, was Lesen, Medien und Schrift beinhaltet, an der Pädagogischen Hochschule FHNW, also Fachhochschule Nordwestschweiz. In Bezug zur Evaluation hat sie in verschiedenen Projekten zu Lesen und Schreiben wissenschaftliche Evaluationen durchgeführt. Also zum Beispiel, wie wird etwas Bestimmtes im Unterricht eingesetzt, wie reagieren die Lehrpersonen, die Lernenden auf eine bestimmte Intervention und so weiter. Vielen Dank, dass Sie da sind. Hans-Jakob Schneider, da zu meinen Linken. Er hat an der Universität Zürich Germanistik und Anglistik studiert und zum Thema Hochdeutscherwerb in der deutschen Schweiz promoviert. Seit 20 Jahren arbeitet er im Bereich der pädagogischen Hochschulen, zurzeit als Professor für deutsche Sprache und ihre Didaktik an der Pädagogischen Hochschule Zürich. Er hat sich in der Forschung immer wieder mit der Messung von Sprachleistungen beschäftigt und hat mit Kollegen, Kolleginnen für den Kanton Zürich Kompetenzraster für den Kindergarten und die erste Klasse entwickelt. Vielen Dank fürs Dasein, Hans-Jakob Schneider. Gut, wir haben heute eine spannende Diskussionsrunde vor uns. Das Wort Beurteilung ist so etwas Wichtiges. Ich selber auch als Lehrperson bin immer wieder mit diesem Wort oder mit diesem Thema konfrontiert. Bevor wir wirklich mit den Fragen starten, möchte ich mit einem Zitat beginnen. Habe ich schon letztes Mal bei der letzten Diskussionsrunde gemacht. Ich finde, das lockert das Ganze ein bisschen auf. Schauen wir mal, was der Lehrplan Kanton Bern zum Wort Beurteilung sagt. Ich habe jetzt auch wieder Lehrplan Kanton Bern genommen, wie letztes Mal. Im Lehrplan Kanton Fribourg steht in etwa das Gleiche, einfach, dass ich das auch gesagt habe. Also, zum Wort kompetenzorientierte Beurteilung. Eine kompetenzorientierte Beurteilung orientiert sich an folgenden Qualitätsmerkmalen. Das ist nur ein Ausschnitt, das wäre eigentlich viel mehr. Also, eine kompetenzorientierte Beurteilung hat das Qualitätsmerkmal Förderorientierung. Die Steuerung und Optimierung der Kompetenzentwicklung gilt als wichtigstes Anliegen der Beurteilung. Sie wird jeder Schülerin und jedem Schüler ermöglicht. Dann Passung zum Unterricht. Lernsituationen im konkreten Unterricht stellen den zentralen Bezugspunkt zur Beurteilung dar. Sowohl die formative als auch die summative Beurteilung orientieren sich an Kompetenzerwartungen, zum Beispiel im Rahmen von reichhaltigen Aufgaben. Dann, dritter Punkt, Transparenz und Nachvollziehbarkeit. Den Schülerinnen und Schülern müssen Inhalt, Zeitpunkt, Form und Kriterien der Beurteilung bekannt sein, damit sie diese gewinnbringend für die weitere Kompetenzentwicklung nutzen können. Neben den Ergebnissen einer Beurteilung müssen die Schülerinnen und Schüler sowie die Eltern auch über das Beurteilungsverfahren regelmäßig informiert werden. Und nicht zuletzt, umfassende Beurteilung. Alle Kompetenzbereiche bzw. Handlungsaspekte und die überfachlichen Kompetenzen werden innerhalb eines Schuljahres in die Beurteilung mit einbezogen. Das wäre das Zitat, das wäre das, was im Lehrplan 21 Kanton Bern zu lesen ist zum Thema Beurteilung. Frau Möckli hat das vorhin schon gesagt, heute Abend steht das Wort Beurteilung im Zentrum unserer Diskussionsrunde. Wir legen den Fokus auf die Beurteilungspraxis von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund beziehungsweise Schülerinnen und Schüler, die die Zielsprache noch nicht beherrschen oder noch nicht ganz gut beherrschen. Wir werden Begrifflichkeiten klären, wir werden Meinungen hören, Herausforderungen vielleicht auch herausspielen und auch vielleicht auch offene Fragen im Umgang mit Kindern, die Sprache noch nicht beherrschen, auch ein bisschen so unter die Lupe nehmen. Und da Beurteilung, habe ich schon vorhin gesagt, wirklich eine Herausforderung ist, habe ich selber als Lehrperson auch schon gemerkt, möchte ich eigentlich gleich mit dieser Frage starten. Also welche spezifischen Herausforderungen können bei der Beurteilung von Schülerinnen und Schülern auftreten, die aus einem fremden Land kommen und die Unterrichtssprache nicht sprechen? Costanza, je peux vous donner la parole. Quels défis spécifiques peuvent survenir lors de l'évaluation des élèves provenant d'un pays étranger et ne parlant pas la langue de scolarisation?
Merci pour cette première question. Je vois différents défis aux différents niveaux aussi. Je dirais que les défis sont d'ordre linguistique. N'oublions pas que les élèves allophones, peu importe du pays où ils viennent et quand est-ce qu'ils sont arrivés dans le pays d'accueil, la langue pour ces pays-là, pour ces élèves-là, est un outil d'évaluation, mais aussi un objet d'apprentissage. Ça veut dire que étant l'objet d'apprentissage, ça peut être aussi un obstacle si on utilise la même langue pour évaluer les élèves. Donc, ces défis linguistiques, ça peut vraiment nous poser problème quand on décide quel type d'évaluation pédagogique on va mettre en place, quand et comment on va évaluer. Il y a des défis au niveau institutionnel aussi. Les évaluations pédagogiques étant différentes et diversifiées, notamment on parle d'évaluation diagnostique quand ils arrivent au pays, évaluation formative, évaluation continue ou encore évaluation sommative. Au niveau institutionnel, toutes ces pratiques-là, elles peuvent être diversifiées. Toutes ces pratiques-là, elles peuvent être aussi différentes et peut-être nouvelles à un moment donné dans le parcours de l'élève ou dans l'expérience de de l'institution. Et ça peut être aussi une difficulté en soi ou bien des défis qui se posent au niveau institutionnel. Je pense qu'il y a des défis au niveau sociétal aussi, notamment en ce qui concerne l'intégration linguistique des élèves et puis l'intégration dans la classe d'accueil ou dans la classe de langue, l'intégration dans l'école ou l'intégration dans le pays d'école, dans le pays d'accueil, mais aussi quand on parle de certaines décisions qui sont prises, notamment lors du passage en CO, en 8H, ça veut dire que là, les décisions ne sont pas juste institutionnelles, mais aussi sociétales. Mais je pense que les défis, ça peuvent être aussi culturels, c'est-à-dire que les élèves, peu importe du pays où ils viennent, il y a certaines pratiques évaluatives qu'ils connaissent, d'autres qu'ils ne connaissent pas, et donc il est de notre devoir certainement de créer des évaluations qui sont plus proches de leur vécu et puis de leurs besoins aussi. Et c'est aussi des pratiques scolaires. Au niveau scolaire, je pense qu'il y a aussi des défis en ce sens-là, c'est-à-dire que l'évaluation ne doit pas être là juste pour évaluer les apprentissages, mais évaluer pour l'apprentissage. Et en ce sens, je pense qu'il y a l'intégration de l'école et l'intégration de la société d'accueil. Ça passe aussi à travers l'évaluation.
Merci beaucoup. Et Nathalie ?
Je ne vais pas reprendre les points qui ont été développés par Constanza, mais j'aimerais rebondir sur ce qu'est la définition du mot « évaluation ». Parce que « évaluer », ça veut dire identifier ce qui fait la valeur. Et souvent, bien malheureusement, l'évaluation sert à dire « tu n'as pas réussi ça » et pas « ce que tu sais, c'est ça ». Donc voilà, c'était déjà… Et ça m'amène au premier point qui est quand même le problème de la motivation. Et j'ai travaillé il y a longtemps en France, dans les banlieues françaises, en français langue seconde. Et c'est très difficile pour un enfant d'être motivé à l'école s'il sait qu'il ne va pas réussir. Et je pense que ces enfants allophones, ils portent, comme tous les enfants, un espoir de la famille, mais peut-être plus qu'encore les autres enfants, ils ont cette pression de réussir pour avoir une place socialement, etc. Et je crois que ce qui est le plus important, c'est de préserver l'envie d'apprendre. Et pour préserver l'envie d'apprendre, il faut garder cette possibilité dans la tête des élèves qu'ils peuvent réussir à l'école. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'important. Et puis, je voulais rebondir aussi sur l'aspect culturel. J'ai discuté avec une interprète tigrinya qui travaillait dans les écoles. Elle était appelée pour gérer des problèmes de comportement régulièrement, notamment de petits garçons qui parlaient le tigrinya, et pour discuter avec la famille. Et elle m'a rapporté un détail, mais qui, je pense, est intéressant pour mesurer la distance culturelle. C'est que dans la culture tigrinya, il y a cette idée qu'il faut être fort et que taper quelqu'un d'autre, c'est aussi une façon d'être fort. Et que dans notre culture, taper, c'est vraiment quelque chose de pas bien. Et elle expliquait qu'il y avait là quelque chose du culturel qu'elle, en tant qu'interprète, elle n'arrivait pas à décortiquer entre les attentes de l'école et ce que la famille pensait bien. Donc je pense que ces aspects culturels sont pas simples, mais qu'ils entrent aussi dans cette idée d'évaluation et de qu'est-ce qu'on attend de l'enfant et qu'est-ce qui fait son succès à l'école. Et puis enfin, je voudrais juste faire un petit point sur ce qui est linguistique. Je voudrais dire qu'il y a un certain nombre d'enfants qui ont des langues comme le tigrinya, l'amharique, le peul, le serbe, etc. Et on a très peu de données sur comment ces enfants-là apprennent la langue de scolarisation ou apprennent la langue 2, en tout cas pour le français. On a des données pour des enfants qui sont de langue première européenne, mais on n'a pas de données pour ces enfants-là. Et il y a quand même à attendre de grosses influences cross-linguistiques dans la mesure où il y a des grosses différences de structure de langue. On ne met pas le même ordre, les mots dans le même ordre, on ne marque pas un verbe de la même façon, on ne le reconnaît pas de la même façon. Et je pense que là, il y a un vide à... ou en tout cas quelque chose à compléter dans la recherche.
Voilà. Vielen Dank. Merci beaucoup. Es war schon sehr spannend, einige Dinge, die wir gehört haben, kulturelle Aspekte, Motivation, Leistungsdruck, aber auch wirklich diese strukturellen Unterschiede in der Sprache, die alles ja eigentlich eine vielleicht faire Beurteilung auch schwierig machen oder vielleicht also unmöglich machen, je nachdem. Ich möchte Afra Stuhn, möchte Sie noch kurz fragen, was sehen Sie, welche spezifischen Herausforderungen können bei der Beurteilung von Schülerinnen und Schülern auftreten, eben die aus einem fremden Land kommen. Wie sehen Sie das?
Ich möchte es mal auf das Schreiben beziehen. Also wenn viele Prüfungssituationen sind schriftlich und da haben wir das Problem, dass zu wenige Trainingsmöglichkeiten schriftlich waren. Also dass zu viel noch im Mündlichen war. Aber damit man das verschriften kann, müssen diese Schüler schon eigentlich auch sehr viele schriftliche Möglichkeiten haben. Das ist oft nicht so der Fall. Das heißt, es ist wie ein doppelter Nachteil, der ins Spiel kommt. Und das Zweite, was eine eminent wichtige Rolle spielt, ist der sogenannte Präsentationseffekt. Das heißt, dass im schriftlichen Handschrift die ganze Akkuratheit mit ins Spiel kommt. Und das kann man nicht richtig unterlaufen. Das heißt, man sieht dann durch den Präsentationseffekt die anderen Leistungen nicht. Würde man das sehen wollen, müsste man eigentlich diese schriftlichen Produkte sprachformal bereinigen, abtippen, damit sie sichtbar werden. Das ist aber ein Aufwand, der nicht leistbar ist in der Schule. Und das sind solche Herausforderungen, die sich jetzt gerade in Bezug auf Schreiben sehr stark stellen. Also zu dem, was jetzt schon gesagt wurde.
Vielen Dank. Und Hans-Jakob Schneider, wie sehen Sie das, spezifische Herausforderungen und vielleicht auch, wie können diese Herausforderungen überhaupt überwunden werden?
Wenn ich darf, würde ich gerne zu den Eingangsbemerkungen über den Lehrplan 21 noch nur ganz kurz
etwas sagen. Auf jeden Fall.
Der Lehrplan 21 ist ja nur in kleinen Teilen wirklich, sagen wir mal, empirisch validiert. Und auch vor allem für die Basisstandards sozusagen. Also daraus jetzt das als Grundlage zu nehmen für eine kontinuierliche Entwicklung über alle Stufen hinweg, finde ich, ist gewagt. Und der Anspruch, dass man alles, was da drin steht, einbeziehen soll in die Beurteilung, das finde ich auch gewagt, weil das einfach praktisch nicht leistbar ist und eben auch empirisch gar nicht so gut gesichert ist. Das nur so als kleiner... also ich finde Lehrplan 21 eine gute Sache, aber es ist nicht, kann nicht alles leisten, was man ihm unterstellt. Und dann würde ich gerne das Thema der Motivation aufnehmen, das Nathalie eingeführt hat, nämlich mit einem Zitat von einem deutschen Erziehungswissenschaftler namens Hartmut von Hentig, der sagt, die Schule hätte die Aufgabe, die Dinge zu klären und die Menschen zu stärken. Und diese beiden Hauptaufgaben, die Dinge zu klären, ist sozusagen das Lernen, das Wissen und Können vermehren. Und die Menschen zu stärken, hat viel mit Selbstkonzept, mit auch pädagogischen Variablen zu tun. Und diese beiden Dinge, die beißen sich gelegentlich, finde ich. Und bei der Beurteilung sieht man das besonders gut, dass man eigentlich als Lehrperson aus pädagogischen Gründen sozusagen keine Noten geben möchte. Viele Lehrpersonen geben nicht gerne Noten, weil sie denken, das ist nicht gut für die schwachen Kinder, ganz sicher nicht, weil sie dann immer nur die gleichen Erfahrungen machen und bei den DATS-Kindern sowieso auch. Und gleichzeitig haben sie auch den Auftrag, eben irgendeine Sachnorm zu erreichen. Und das beißt sich irgendwie, das ist in der Sache angelegt. Und das ist ein Zwiespalt, über den wir heute sicher noch verschiedentlich reden werden. Ein Problem, vor allem in der Anfangsphase des DATS-Erwerbs, glaube ich, ist, also ich spreche jetzt von Deutsch als Zweitsprache, einfach weil das der Fall ist, den ich kenne, dass von der Produktion her man bestimmte Dinge sieht, aber die Kinder sprechen auch gar nicht so häufig am Anfang. Aber was man nicht sieht, ist das Verstehen. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Auftrag wäre, dass man das Verstehen sichtbar macht und beobachtbar macht als Lehrperson. Das ist, muss man einfach im Kopf haben. Das ist keine Hexerei im Grunde genommen. Aber dass man die Dinge, die die Kinder eben schon können, auch sehen können muss als Lehrperson. Sonst kann man sie nicht beurteilen.
Vielen Dank. Spannend. Sehr gut. Dazu hätten wir auch gleich eine Folgefrage, ist teilweise auch schon beantwortet worden. Wenn wir jetzt konkret wirklich an den Schulalltag denken, welche Beurteilungsformen stehen zurzeit im Einsatz und welche eignen sich am besten, Sie haben es schon ein bisschen auch angetönt, Hans-Jakob Schneider, um Schülerinnen und Schüler, die die Unterrichtssprache noch nicht beherrschen, gerecht zu beurteilen, vielleicht auch gerade im Hinblick auf Übertrittsentscheide. Darf ich Ihnen gleich auch das Wort nochmals übergeben?
Ja, gerne. Also im Grunde genommen kann man ja unterscheiden zwischen verschiedenen Normen, die man an die Beurteilung ansetzt. Typischerweise ist das eine Vermischung von Sachnormen. Also jemand muss eine bestimmte Leistung erbringen können. Aber das passiert in einer Klasse. Das heißt, es gibt noch die Sozialnorm, die da mitspielt. Und das ist an der Uni Fribourg, glaube ich, gut erforscht worden, dass sich das manchmal in die Quere kommt und dass man die Noten so setzt, dass wenn ein Kind in einer guten Klasse ist, es eben schwächere Noten hat, als wenn es in einer schwächeren Klasse ist. Und daneben gibt es auch noch, neben der Sozial- und der Sachnorm, gibt es die Individualnorm, dass man jemanden misst daran, nicht wie er oder sie eine Aufgabe absolut erfüllen kann, sondern in Bezug auf die erwartete Leistungsentwicklung eines Kindes. Und das ist wahrscheinlich, wäre das die pädagogischste von allen Formen des Beurteilens. Aber das ist auch eine, wo man annehmen kann, dass das eine motivationale Wirkung hat. Und da gibt es in verschiedenen Gemeinden im Kanton Zürich zum Beispiel Versuche, dass man das wirklich auch so durchführt. Am Schluss gibt es immer Noten, wenn es um den Übertritt geht, sowieso. Aber dass man das in sozusagen in der Prüfungsabfolge oder in der Beurteilungsabfolge, dass man sozusagen mit Kindern eine Zielvereinbarung macht und dann mit einem, zum Beispiel mit einem Ampelsystem misst oder mitteilt, Rückmeldungen gibt, ob jetzt dieses individuelle Ziel erreicht ist oder nicht. Grün wäre, ist erreicht, vielleicht auch übertroffen, und nicht erreicht wäre dann nicht rot, aber orange oder so, halt eine andere Signalfarbe. Das, glaube ich, ist ein gangbarer Weg, aber also erstens mal landet man am Schluss beim Übertritt ohnehin dann immer wieder bei den Noten und das hat auch eine bestimmte Berechtigung, finde ich. Und zweitens ist das natürlich mit einem erheblichen Mehraufwand der Lehrpersonen verbunden. Das muss für jedes Kind eine individuelle Planung da sein. Und das sprengt manchmal den Rahmen neben allem anderen, was eben auch noch Lehrpersonen leisten sollen. Aber als Prinzip wäre das wahrscheinlich nicht ein falscher Zugang.
Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, Prozess begleiten und innerhalb des Prozesses immer laufend evaluieren, so
genau.
Formativ, wenn
genau.
Ich das...
Und spezifisch, das habe ich fast vergessen, da habe ich selber daran mitgearbeitet, spezifisch für Deutsch als Zweitsprache sind Kompetenzraster, Beobachtungsraster, die in der Schule eingesetzt werden können für zum Beispiel das monologische oder dialogische Sprechen. Da gibt es dann verschiedene sozusagen Kategorien, wo Lehrpersonen angehalten sind, Situationen zu inszenieren, in denen sie ganz bestimmte Kategorien beobachten können. Das ist anspruchsvoll, das ist überhaupt nicht objektiv, muss man leider sagen. Aber was ist das schon in der Schule eigentlich? Es gibt wenig, das objektiv ist. Und für DATS ist das, glaube ich, nicht mal so sehr nur für die Beurteilung der SchülerInnen wichtig, sondern auch für die Eichung von Lehrpersonen, dass sie sich bewusst sind, welche Dinge man überhaupt beobachten könnte. Ich habe vorhin vom Verstehen gesprochen, aber beim Sprechen ist es natürlich genau das Gleiche. Man muss sich gut überlegen, wie man inszeniert, damit man das bekommt, was man sehen möchte.
Vielen Dank, sehr, sehr spannend. Dankeschön. Costanza, j'aimerais vous poser la même question. Quels sont les modes d'évaluation les plus appropriés pour évaluer les élèves qui ne maîtrisent pas encore la langue cible, notamment en ce qui concerne les décisions de passage à un niveau supérieur, par exemple?
Oui, c'est une question très pertinente d'ailleurs, ce qui me ramène à réfléchir et puis à aborder l'évaluation, pas comme un moment évaluation, parce que ça nous fait penser à un moment de performance pendant le semestre ou à la fin du semestre surtout, et à une note sur laquelle on va se baser pour prendre des décisions. Donc je pense qu'il serait plus pertinent plus pertinent de parler de processus d'évaluation. Et ce processus d'évaluation, même dans une classe régulière, ça commence au début de la séquence. On le sait, dans les classes, on fait tous une évaluation diagnostique au début pour savoir ce que les élèves ils savent et puis comment on va ajuster les objectifs d'apprentissage en fonction de ce que les élèves ils savent faire ou pas. Pour les élèves allophones, c'est aussi très important de partir d'une évaluation diagnostique qui se fait d'ailleurs à l'État de Fribourg quand les élèves ils arrivent, peu importe les compétences linguistiques qu'ils ont en français ou en allemand, ils sont évalués. Souvent, ils sont évalués dans leur langue première également. Et ce processus d'évaluation va continuer donc depuis le début du projet pédagogique, puisque là on va peut-être pas parler de séquence mais de projet pédagogique, jusqu'à la fin de leur projet pédagogique où on va vraiment changer peut-être de thème ou bien qu'on va évaluer les élèves. Et en fait, l'élément d'évaluation va être une succession de décisions qui vont être prises par rapport à quel objectif on va choisir pour enseigner à ce public-là. Quels sont les objectifs d'évaluation aussi, parce que tous les objectifs qu'on choisit pour enseigner ne peuvent pas être évalués. Quand est-ce qu'on va évaluer? Comment? Pour quelle décision? Est-ce que c'est pour le passage à la classe supérieure ou bien à un autre niveau, etc. Quels sont les critères d'évaluation? Quelles sont les modalités d'évaluation? Quels sont les indicateurs qui me permettent d'évaluer ces critères? Et donc, c'est cette succession d'étapes qui nous permettra justement d'arriver à un résultat, mais surtout d'arriver à des modalités qui sont vraiment adaptées aux élèves, puisque à chaque fois, on ne prendra pas les mêmes décisions, mais on prendra les décisions en fonction du public qu'on a en face. Peu importe d'où ils viennent, ils ont des acquis, ils ont leur propre bagage, ils ont leur propre capital linguistique, mais souvent disciplinaire aussi, en musique, à la gym ou bien en maths, etc. Et donc, les meilleurs modes d'évaluation, ce seront celles qui sont diversifiées en termes d'objectifs, en termes de modalités également, mais aussi qui tiendront compte des directives et puis du cadre de référence en lien avec l'évaluation dans le canton de Berne ou dans le canton de Fribourg, donc dans le contexte où on se trouve. Et là, il y a aussi des directives qui sont très claires par rapport à l'évaluation des élèves allophones en fonction de quand est-ce qu'ils sont arrivés dans le système scolaire fribourgeois. Et moi, je pense qu'une grande force de notre époque, c'est aussi de valoriser l'utilisation du numérique dans la création des modalités. Oui, il faut de l'imagination pour créer ces projets pédagogiques pour les élèves allophones, mais oui, il faut aussi de l'imagination pour créer des épreuves, des modalités d'évaluation qui n'existent pas avant. Et puis là, je pense notamment en numérique qu'on peut l'utiliser. Il y a beaucoup, enfin, on retrouve l'utilisation des applications pour la traduction des consignes, etc. Mais même de la création de l'évaluation en tant que telle. Donc voilà, c'est vraiment une prise en considération du parcours de l'élève, du besoin des élèves, diversifier les outils, diversifier les modalités dans l'objectif de mieux répondre aux besoins des élèves.
Merci beaucoup.
Je peux me permettre de réagir, je dois faire la synthèse avec Antia Corbe et ce que vient de dire Constanza. C'est quelque chose qu'on a discuté donc dans une journée de formation avec des enseignants en français en langue seconde, donc ceux qui récupèrent les élèves allophones pour des classes en dehors de la classe principale. Et puis, c'est une discussion qui a lieu aussi au sein d'une association qui s'appelle Paysage éducatif, où il y avait des directeurs d'école, des inspecteurs d'académie, etc. Et c'était assez intéressant parce que tout le monde a conscience que ces évaluations sont basées sur une norme. Et ça nous ramène à quel est l'objectif de l'évaluation, ok? Et si cet objectif est la sélection des élèves, alors ça s'inscrit dans un système de notes, etc. Mais si cet objectif, c'est d'informer sur le développement d'une compétence, comme cela a été annoncé au début de cette table ronde, il y a d'autres façons de faire. Et en particulier, quand on dispose d'un référentiel de compétences, on peut avoir une liste d'objectifs individuels. Et ces objectifs permettent un développement individuel. On peut aussi penser qu'on peut en mettre un certain nombre dans des outils d'auto-évaluation qui vont rendre les apprenants plus investis, plus responsables, plus autonomes dans leur apprentissage. Mais ça veut dire définir autrement les objectifs des évaluations sommatives. Et on en parlera plus tard, mais ça permet quand même de rendre compte aux familles du progrès de l'enfant. Et la grande difficulté qui a été soulevée par tout le monde, c'est qu'on ne dispose pas de ces référentiels de compétences de façon suffisamment détaillée aujourd'hui. Il n'y a pas ça à disposition des enseignants. Mais les autorités éducatives du canton de Fribourg étaient très favorables à un changement de paradigme par rapport à l'évaluation et vers ces évaluations critériées, quoi, où chacun va remplir, ok, il a le prérequis, il a cela, il n'a pas cela, etc. Et ça nous amène à l'école inclusive, parce que tout d'un coup, on se rend compte que cette évaluation critériée, c'est déjà en place pour les élèves qui sont allophones pendant les deux premières années où ils sont scolarisés dans notre système scolaire. Puis ils passent dans le système normal, et là, ils s'affrontent à une évaluation comme les autres. Et là, on sort de cette évaluation critériée. C'est là où il y a un problème, en fait. C'est-à-dire que les enseignants disent que le problème n'est pas pendant la phase où ils sont dans les mesures d'accompagnement, mais au moment où ils basculent et ils n'ont plus cette étiquette d'élève allophone. Et donc, dans le cadre d'une école inclusive, on pourrait très bien penser ces critères pour tous. C'est-à-dire ne plus considérer que c'est l'élève allophone qui est différent, mais considérer que chacun a un parcours d'apprentissage dans lequel un enfant avec un trouble autistique, un trouble de l'apprentissage quelconque, et l'enfant allophone qui est en cours d'acquisition de la langue de scolarisation, eh bien chacun suit son parcours, et puis on fait un bilan à la fin d'un cycle, par exemple, pour savoir s'il est possible de passer au cycle suivant ou pas. Donc voilà, c'était pour dire ça, c'était pour dire qu'il y a des alternatives possibles à ces notes, et il y a une façon peut-être de repenser l'école de façon plus inclusive, sans considérer les élèves allophones comme une entité indépendante et close, réservée à ces deux années de scolarité.
Danke, das klingt sehr gut. Das ist eigentlich die Vision einer modernen, inklusiven Schule, individuelle Lernziele, Prozessbegleitung. Das klingt alles sehr spannend, ist sicher mit Aufwand verbunden, wie auch Herr Schneider gesagt hat. Vielleicht auch für Sie, Frau Sturm, aus Sicht vielleicht der Forschung, welche Verbesserungen sehen Sie in Bezug auf Beurteilungsformen?
Ich glaube, wir nutzen noch nicht alle Möglichkeiten, die es gibt. Man kann das immer sehr gut am Bereich Schreiben zeigen. Wir nutzen eigentlich nur eine, vielleicht zwei Möglichkeiten, Schreibkompetenzen zu erfassen. Wir lassen sie Texte schreiben. Wenn man aber in den Lehrplan schaut, dann gibt es noch sehr viel mehr, das dazu führt. Also eigentlich testen wir nur das, was ganz am Ende rauskommen müsste. Wir testen nicht Textsortenwissen, das eine Rolle spielt. Wir testen nicht, können Sie planen. Wir testen nicht, ob Sie evaluieren können, also Ihre Texte überarbeiten. Können Sie einschätzen, ob ein Text ein Schreibziel erreicht oder nicht? Und wenn man in die Forschung geht, dann könnte man sich inspirieren lassen, weil zum Beispiel in der Schreibforschung gibt es sehr viele verschiedene Testaufgaben. Man lässt sie zum Beispiel eine Ratschlagaufgabe formulieren. Stell dir vor, ein anderer Schüler müsste die gleiche Aufgabe machen. Was würdest du ihm raten, dass das ein guter Text wird? So kann man metakognitives Wissen erfassen. Die Schülerinnen, die hier viel Wissen hätten, schreiben vielleicht noch nicht den ganzen Text so, wie er sein müsste, aber sie hätten das Wissen. Das heißt, das ist ein Unterschied, ob jene, die einen schlechten Text schreiben, auch kein Wissen haben oder jene, die keinen guten Text schreiben und das Wissen haben. Das wäre eine andere Einschätzung. Und ich glaube, wir müssen noch viel mehr mit solchen Formen auch proben, die auch schultauglich machen. Das ist natürlich dann wieder mit viel Arbeit verbunden. Und vor allem brauchen wir dann auch valide Instrumente mit Kennwerten auch. Wie sieht das eigentlich aus und was heißt das nachher für den Unterricht? Also das wäre so etwas, was mir noch wichtig zu sein scheint, dass wir das Repertoire überhaupt nicht ausschöpfen.
Ich lese da auch ein bisschen Kritik vielleicht an Lehrpersonen aus Ihren Worten heraus. Müssen wir mal da vielleicht auch bei der Ausbildung ansetzen, je nachdem.
Ich möchte das nicht als Kritik an Lehrpersonen verstanden haben. Ich glaube, es ist zunächst mal an uns, diese Instrumente zur Verfügung zu stellen, die auch zu erstellen und auch so aufzubereiten, dass sie zu den richtigen Resultaten auch führen. Ich sehe uns da in der Pflicht, beziehungsweise auch die Bildungspolitik und Verwaltung, dass auch die Gelder gesprochen werden, damit man diese Instrumente auch entwickeln kann. Und man kann es aus meiner Sicht nicht einfach nur an die Lehrmittelautorinnen delegieren. Das ist so einfach, weil da sehr viel teure Entwicklungsarbeit noch verknüpft wäre.
Vielen Dank. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Wir haben noch einige spannende Fragen die vor uns. Ich möchte ganz kurz eine Anekdote aus meiner Unterrichtserfahrung erzählen. Also dort, wo ich arbeite, gibt es ein Mädchen. Dieses Mädchen ist zurzeit in der siebten Klasse. Sie ist erst seit kurzer Zeit hier in der Schweiz, seit anderthalb Jahren circa. Es ist ein sehr intelligentes Mädchen, sprachlich affin. Ihr Arbeits-Lernverhalten ist wirklich vorbildlich. Ihre überfachlichen und sozialen Kompetenzen auch. Das einzige Problem, sie ist aus der Ukraine, und sie besitzt nur geringe Kenntnisse der deutschen Sprache, also der Zielsprache. Sie versteht dadurch oftmals Anweisungen der Lehrpersonen oder eben Aufgaben in den Lehrmitteln nicht. Und ihr größter Wunsch wäre, das Gymnasium zu besuchen. Und die Kontroverse liegt eigentlich darin, dass sie zwar die kognitiven Fähigkeiten hätte, diese Fähigkeiten aber sprachlich nicht ausdrücken kann. Und sie sagt auch ganz klar, ihr sind Noten wichtig. Also sie möchte da wirklich eine Ziffer sehen, weil sie sich dadurch auch mit anderen Schülerinnen und Schülern und mit den Übertrittskriterien auch klar vergleichen kann. Und gerade bei solchen Schülerinnen und Schülern, finde ich, spielen Beurteilungsformen auch eine große Rolle. Und die können aus unterschiedlichen Gründen ja auch nicht gleich sein wie bei anderen Schülerinnen und Schülern, die Zielsprache bereits beherrschen. Und jetzt in diesem Zusammenhang spricht man auch unter anderem über die Förderung von sprachsensiblem Unterricht, ja, im Schulalltag. Und daraus entsteht eigentlich die nächste Frage: Was versteht man unter anderem unter sprachsensiblem Unterricht und wie können oder sollen Lehrpersonen, gerade auch diejenigen, die keine Sprache unterrichten, darauf vorbereitet werden, eben diese sprachsensiblen Aspekt auch in ihre Beurteilungspraxis einzubeziehen? Nehmen wir an, eben eine Person, die NT unterrichtet oder RZG, also Geografie und Geschichte, aber kein anderes Sprachfach. Wie kann sie ihren Unterricht wirklich auch sprachsensibel gestalten, ist quasi die Frage. Herr Schneider, darf ich Ihnen das Wort übergeben
zu dieser Frage? Also das ist ja übrigens eine Frage, die jetzt nicht nur Schülerinnen und Schüler mit Deutsch als Zweitsprache betrifft, sondern es betrifft ganz viele Kinder mit Deutsch als Erstsprache auch, weil gerade in diesen Fächern wie Natur, Mensch, Technik oder auch Mathematik, Physik, eigentlich spezifische bildungssprachliche oder schulisch-bildungssprachliche Elemente eine Rolle spielen, die auch von vielen Menschen mit Erstsprache nicht richtig beherrscht werden und die eigentlich in der Schule für alle aufgebaut werden müssten. Von daher öffnet sich das Bild jetzt ein bisschen vielleicht. Und eine der Problematiken ist, dass die Sprachdidaktiker, die wissen natürlich immer alles am besten über die Sprache, ist ja klar, aber sie verstehen eigentlich gar nichts von den Notwendigkeiten, sprachlichen Notwendigkeiten in den Sachfächern. Weshalb da bestimmte Gepflogenheiten herrschen und da müsste man, und da sind wir auch dabei an der Pädagogischen Hochschule Zürich, wir sind dabei, einen Band zu schreiben über Argumentieren in den verschiedenen Fächern und herauszuschälen, was eigentlich sozusagen genuin vom, oder allgemein, generisch, wollte ich sagen, beim Argumentieren ist und was dann wirklich fachspezifische Aspekte davon sind. Und wie man die dann auch sozusagen fachübergreifend oder dann eben nicht fachübergreifend thematisieren kann. Das ist ein weiter Weg, ehrlich gesagt, weil Argumentieren ist ohnehin ein hoffnungslos schwieriges Gebiet und in den einzelnen Fächern weiß man auch noch nicht so viel wirklich darüber. Also, aber da sind wir unterwegs. Es gibt aber auch relativ einfachere Dinge. Zum Beispiel haben wir eine Studie gemacht zum Verstehen von Lehrmitteltexten, in unserem Beispiel in Biologie. Und da waren wir wirklich schockiert, was alles nicht verstanden wurde. Das merkt man eigentlich als Lehrperson oft gar nicht. Man merkt dann an der Prüfung, dass irgendwas nicht da ist. Aber dass sie schon bei den Lehrmitteltexten überhaupt also ganz komplett falsche Konzepte aufgebaut haben, das merkt man normalerweise gar nicht. Und das hat ein Stück weit damit zu tun, dass die Fachlehrpersonen sich fürs Inhaltliche und nicht für die Sprachoberfläche interessieren. Und oft lassen sie die Schüler etwas lesen und dann kommt der Auftrag und denk jetzt mal weiter, was das bedeuten könnte oder so etwas. Also Fragen, die auf sehr hierarchiehohem Niveau sind. Und sie klären gar nicht ab, ob die Basics der Texte verstanden sind. Und wir empfehlen, dass man, bevor man auf diese schwierigeren Fragen eingeht, zuerst mal ein paar ganz einfache Verständnisfragen stellt. Die kann man auch schriftlich stellen, die können auch wörtlich abgelesen werden. Das spielt gar keine Rolle, vielleicht sogar besser so, so dass auch die schwachen LeserInnen sozusagen hingelenkt werden, wo eigentlich was steht überhaupt im Text. Und wenn man das macht, dann haben wir sozusagen auch empirisch belegen können, dass das eine signifikante Verbesserung des Leseverstehens bringt im Vergleich zu SchülerInnen, wo man das nicht anbietet. Und das, ich glaube, das ist etwas, da muss man jetzt nicht wahnsinnig viel von Sprache verstehen. Man muss sozusagen einfach verstehen, dass man zuerst sichern muss, ob sie wirklich die einfachen Dinge auch verstanden haben.
Also simple, kleine Verständnisfragen.
Genau.
Zu Beginn.
Was steht über die Schleimhäute in diesem Text?
Sehr gut. Frau Stumm, Sie wollten auch
genau, ich wollte eigentlich anknüpfen, und zwar, was diesen Punkt betrifft, viele meinen dann, dass die Texte sprachlich vereinfacht werden müssten. Und da wissen wir mittlerweile, dass das leider nicht funktioniert. Im Gegenteil, sprachlich vereinfachte Texte werden sogar noch schwieriger, weil ich dann noch mehr selber interpretieren muss. Und es gibt ja eine Studie von Sabine Stefani, die das untersucht hat, Mathematiktexte bei Viertklässlern, einmal sprachlich stark vereinfacht, einmal nicht. Und wenig überraschend, auch die DATS-Kinder haben bessere mathematische Leistungen erbracht bei den nicht vereinfachten Texten. Und das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig, dass nicht dann daraus der Schluss gezogen wird, es muss einfach nur noch einfache Hauptsätze und weiß ich was. Und wir sehen eigentlich in allen Studien, dass die Texte länger werden, eigentlich, dass sie sprachlich expliziter sein müssen, um nicht zusätzliche Hürden aufzubauen. Und das gilt für L2-Lernende, das gilt für Kinder aus vielleicht eher schriftfernen Familien, das ist eigentlich unabhängig davon.
Vielen Dank, das ist sehr spannend, weil das ist sicher eine Haupterkenntnis, die ich jetzt sicher aus diesem Abend noch für mich mitnehmen werde, diese sprachliche Vereinfachung der Texte. Sie wird in der Tat in der Ausbildung, auch im Institut für die Heilpädagogik, also zumindest damals, als ich in Bern war, hat man das eigentlich auch immer so als Maßnahme gesagt. Ich bin froh, dass ich jetzt da einen neuen Stand bekommen habe. Vielen Dank dafür. J'aimerais vous donner la parole pour la même question. Que comprenez-vous par enseignement sensible à la langue et comment les enseignants, en particulier ceux qui n'enseignent pas les langues, peuvent-ils ou devraient-ils être préparés à inclure ces aspects sensibles à la langue dans leur pratique d'évaluation? Constanza, je peux vous donner la parole?
Oui, alors sans vouloir répéter ce qui a été dit, je pense que c'est très important de valoriser déjà la langue première ou le capital linguistique de l'élève, de l'intégrer déjà dans les pratiques évaluatives. Après, on sait qu'il y a des méthodes qui existent telles que Emile et Hall, etc., dont on en parle depuis des années déjà, qui peuvent nous inspirer par rapport à la mise en situation et puis par rapport à des type à une modalité d'évaluation, par exemple une histoire qui existerait dans plusieurs cultures différentes, qu'on peut la choisir pour mettre en place une évaluation de compréhension écrite, par exemple, et bien sûr d'aider les élèves à aller en fait à faire ces allers-retours entre culture première et puis culture et puis la langue seconde en fait dans le pays d'accueil. Mais ce type de formation peut être aussi proposé aux enseignants d'autres disciplines telles que les maths ou encore la musique ou les sciences, etc. Donc toutes les disciplines et tous les cours, enfin les matières qui sont enseignées plus tard dans la scolarité, pas juste en fait proposées à ces formations-là aux enseignants de langue. Et donc ces sensibilités qu'on peut créer à travers cette rencontre à l'autre, cette rencontre à une autre culture, même si on n'enseigne pas forcément la langue seconde ou on n'enseigne pas forcément le français ou encore l'allemand, ça peut aider les enseignants à créer justement d'autres outils ou une autre ouverture vers ces élèves, les élèves allophones, notamment à travers l'évaluation, pour que l'évaluation ne soit pas justement l'évaluation des apprentissages, ou comme on dit en anglais, assessment of learning, mais que ce soit l'évaluation pour l'apprentissage, donc assessment for learning. Et là, je pense qu'on gagne vraiment à mettre au centre l'élève et son parcours et encore ses origines et puis sa culture, pour justement, même si on est dans un contexte autre que les maths, autre que la langue première, en fait, ou le français langue seconde, parce que je pense, par exemple, le fait que le savoir, la transmission du savoir est universelle, donc dans tous les pays, on enseigne les maths. Par contre, la transmission et la progression de l'apprentissage restent quand même culturelles. Un élève qui arrive en Suisse en ce moment, mais qui arrive de Chine, n'aurait pas le même bagage, n'aurait pas les mêmes connaissances, les mêmes acquis. Donc, ça veut dire que cette sensibilité-là, et puis ces formations continues, ou ces savoirs en lien avec le parcours des élèves, et puis ce qui se fait, ça aiderait beaucoup, en fait, d'aller vers une réflexion sur d'autres types de modalités en lien avec l'évaluation.
Merci. Ah, ça veut dire, si j'ai bien compris, on devrait rajouter cet aspect dans la formation des enseignants, des futurs enseignants.
Dans la formation première, mais idéalement dans la formation continue aussi. Je pense que rien n'est permanent à part le changement. On a vécu ça avec la guerre en Ukraine. On n'avait jamais été préparé d'un public uniquement qui venait de l'Ukraine dans les classes. Et là, ça veut dire qu'on pouvait même parler d'un public homogène, dans le sens qu'on avait affaire à une seule culture. Mais même ça, c'était nouveau dans la préparation et puis dans la gestion de la situation. Et puis ça nous a montré encore une fois qu'on gagne en fait à créer des outils et puis à développer d'autres types de dispositifs pour ce public-là, et pas uniquement dans la discipline du français langue seconde, mais aussi plus largement pour tous les enseignants qui enseignent et puis qui enseignent depuis quelques années déjà et qui enseignent aussi d'autres disciplines que le français.
Très bien, merci. Nathalie ?
Oui, beaucoup de choses ont été dites. J'ai pas grand-chose à ajouter. J'avais deux choses dont je voulais parler. La façon dont on donne les consignes, c'est quelque chose qui influence beaucoup le résultat de l'évaluation. Et on pourrait imaginer que c'est pas très compliqué de faire des consignes qui ont plusieurs formes ou plusieurs sources, et puis surtout qui sont exemplifiées. Et c'est vraiment pas quelque chose de répandu, l'exemple pour l'application de la consigne. C'est des choses très simples, mais qui sont pas faites. Et puis l'accès aux outils technologiques. Alors je sais que ça provoque toujours des débats, mais après tout, pourquoi ne pas leur donner, enfin c'est facile aujourd'hui d'avoir une tablette, d'aller chercher une traduction, donc pourquoi ne pas leur laisser accès aux outils en ligne pour qu'ils aillent chercher ce dont ils ont besoin et qu'ils ne comprennent pas au niveau de la langue. Donc voilà, deux autres pistes que je voulais vous transmettre. Et puis il y avait une étude dont je voulais vous parler, qui est en relation avec votre exemple de la jeune fille. Et c'est une étude de Black et William de 2018, et qui disait que les notes, en fait, ça amène les étudiants à se comparer, mais ça les amène pas à prendre en charge leur apprentissage. C'est-à-dire que ce qu'ils cherchent, c'est la note par rapport aux autres, et c'est pas ce qu'ils ont appris. Et que, en fait, ça nuit à l'apprentissage. Voilà.
Vielen Dank. Ja, das ist in der Tat so. Das
merken wir. Je me permets peut-être de rebondir sur la note. Les quatre premiers semestres, on est d'accord qu'on ne va pas noter les élèves. Les élèves allophones dans le canton de Fribourg, il n'y aura pas de notes, mais il y aura beaucoup d'observations et puis il y aura beaucoup de rapports qui sont qui sont notées dans le dossier de l'élève. Donc, ça veut dire que même si l'élève, il change d'école ou il change de classe, etc., l'enseignant, en se connectant avec le code, peut prendre connaissance et devrait d'ailleurs prendre connaissance de ce parcours d'élève. Après, une fois qu'on entre dans le système, on est d'accord que, enfin, le passage, il peut y avoir toujours un creux. Par contre, l'enseignant, lui, dans la classe, où l'enseignante a toute la liberté de mettre en place des modalités d'évaluation différentes. Rien ne nous dit d'évaluer absolument cet élève-là comme les autres. Dans un premier temps, on a tout à fait la liberté, même si on est dans le cinquième semestre dans la scolarité obligatoire, mais que c'est le premier où l'élève il devrait être évalué comme les autres. Et je pense notamment à des travaux de bachelor qui ont été faits à l'HEP, où on a questionné les pratiques évaluatives des enseignantes en lien avec les élèves allophones, et on trouve des pratiques évaluatives excellentes, avec une grande imagination, avec une grande volonté. Bien sûr que la grande volonté et la volonté tout court ne permettra pas de changer le système. Par contre, les enseignants ont cette possibilité de choisir les objectifs, de choisir les modalités, parce que la note à la fin, c'est quoi ? Ben, c'est un processus, c'est un résultat qui vient après avoir pris une suite de décisions. Alors oui, la note, elle ne communique rien, on est d'accord, même si elle paraît claire. Deux élèves qui ont un 4,5 en maths, ça ne nous indique pas qu'est-ce que j'ai appris et puis qu'est-ce qu'il a appris, même si on a la même note. Mais ça, c'est un débat général, ce n'est pas juste en lien avec les élèves allophones.
Oui, naturellement. Da sind wir auch ein bisschen wieder bei dieser Prozessbegleitung, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber ein Stichwort haben Sie gesagt, alternative Beurteilungsformen. Das passt eigentlich sehr gut als Übergang zur nächsten Frage. Vielleicht wieder eine ganz kurze Anekdote meinerseits. Eben, diese Noten, die werden ja heutzutage im pädagogischen Bereich ja wirklich kontrovers diskutiert. Es gibt immer wieder Kritikpunkte, die geäußert werden, zum Beispiel mangelnde Objektivität, die demotivierende Wirkung, weil man sich ja vielleicht auch mit anderen vergleicht, die Tatsache, dass sie oft eben nichts über den Lernstand eines Menschen aussagen oder einfach eben die selektive Verwendung. Wenn jemand eine 5 hat, dann darf er sie in die Sek gehen, ansonsten nicht zum Beispiel. Und eben diese Noten, die eben gewünschte Bildungswege teilweise verunmöglichen. Und ja, die Stimmen über alternative Beurteilungsmethodenformen werden immer lauter. Ich mache einen kleinen Sprung, weil mich das ist mir jetzt gerade wichtiger. Weil das Thema schon aufgenommen wurde, was kann man sich unter alternativen Beurteilungsmethoden eigentlich vorstellen? Inwiefern sind diese alternativen Beurteilungsformen anwendbar und übertragbar auch auf Schülerinnen und Schüler mit geringen Kompetenzen in der Zielsprache? Und inwiefern sind überhaupt heutzutage Bildungsinstitutionen, wie beispielsweise jetzt gerade die Volksschule, weil die ist obligatorisch, ja, da müssen alle durch, eben diese alternative Beurteilungsmethoden einzusetzen. Costanza, est-ce que je peux commencer avec vous?
Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, ceux qui me connaissent, ils savent que je suis fan de numérique et puis de l'articulation entre le numérique et l'évaluation. La question se pose, et puis il y a parfois un peu de confusion entre l'évaluer le numérique ou évaluer à travers le numérique, et c'est plutôt ce deuxième aspect que je vais développer. Je pense que l'outil, il est très approprié quand on parle des élèves allophones. Il faut, moi je l'ai dit plusieurs fois en fait lors de cette rencontre, qu'il faut valoriser les capitaux des élèves, il faut valoriser leur parcours. Et quoi de mieux que valoriser aussi ce capital qu'ils ont en lien avec la technologie. Peu importe d'où ils viennent, je pense qu'ils arrivent tous avec un bagage et puis des compétences en lien avec la technologie. Et je pense que c'est ça qu'on devrait valoriser pour créer justement des méthodes d'évaluation alternatives qui ne feraient rien d'autre que de mettre au centre l'élève, donc dans cette perspective de assessment for learning, et de lui donner une autre place en prenant aussi en considération, à part les compétences cognitives, mais aussi tous ces aspects émotionnels aussi, qui sont vraiment très importants, en lien avec le stress, quand il y a l'évaluation, etc., et puis de changer le format. Peut-être, on a parlé de la motivation, il y a aussi plein d'études, en fait, qui démontrent que l'utilisation du numérique dans l'apprentissage, ça aide aussi les élèves à garder la motivation. Pour moi, l'évaluation, c'est une étape dans l'apprentissage. Donc, ça veut dire que l'utilisation du numérique et aller, en fait, créer d'autres types de modalités qui intègrent, qui capitalisent les compétences en lien avec la technologie des élèves et puis qui le guident plus vers l'apprentissage de la langue et qui changent un peu ce rapport à l'évaluation qui est stressant parce qu'on aura une note, etc. Je pense que ça peut être une bonne alternative à développer.
Merci beaucoup. Herr Schneider, wie sehen Sie das? Alternative Beurteilungsmethoden? Was kann man sich darunter vorstellen? Sind die anwendbar oder übertragbar auf Schülerinnen und Schüler mit geringen Kompetenzen in der Zielsprache?
Also wenn es um den Lernprozess geht, auf jeden Fall, glaube ich. Aber man kann das nicht wegdiskutieren. Es gibt einen Moment, wo es um Übertritt geht, und das hat auch einen Sinn, finde ich, wo man sozusagen absolut agieren muss. Und da würde ich einfach dafür plädieren, dass man diesen Moment relativ weit hinausschiebt, damit die Schülerinnen und Schüler mit einer anderen Herkunftssprache, aber auch andere Schülerinnen und Schüler mehr Zeit haben, um sozusagen sich zu entwickeln. Das würde also gegen ein gestuftes Sekundarsystem sprechen, sondern für eine Gesamtschule sozusagen. Aber auch da gibt es dann den Moment der Wahrheit irgendwie. Und das, ich meine, wenn wir ein Schreiner oder ein Spengler oder ein Arzt oder irgendwer oder eine Ärztin, die müssen ja ihr Metier beherrschen und die müssen die Grundlagen haben, um das beherrschen zu können. Und da geht es nicht darum, dass man sagt, ja, der kann das jetzt noch nicht so gut, aber er ist auf einem guten Weg. Das nützt mir nichts als Konsument. Und von daher finde ich schon, es braucht irgendwo einen guten, vernünftigen Schnitt. Ob jetzt, also die Schulnoten, die werden ja auch übrigens von der Wirtschaft nicht mehr akzeptiert, weil niemand so richtig weiß, was sich dahinter verbirgt. Da müsste man wahrscheinlich irgendwelche differenzierteren Instrumente haben, aber ehrlich gesagt weiß ich jetzt auch nicht so richtig, was das sein könnte. Die Wirtschaftsfirmen führen ja selber Assessments durch und so. Ob das dann wirklich ihnen die richtigen Leute bringt oder nicht, ist eine andere Frage, das kann ich nicht beurteilen. Das müsste man eigentlich wirklich mal genauer erforschen. Aber dass es so etwas braucht, dass dann eben, wo es um das Klären der Dinge geht und nicht mehr nur ums Stärken der Menschen, ich glaube, das ist offensichtlich, das kann man nicht wegdiskutieren.
Und was sagen Sie zum Thema Noten in Bezug auf die Messgenauigkeit, oder? Können Sie tatsächlich den Wissensstand der beurteilten Schülerinnen und Schüler abbilden überhaupt?
Nein. Nein, nein. Also meine Afra, du weißt das besser, beim Schreiben, Text beurteilen, da gibt es schöne Studien, wo man sieht, dass man die gleichen Texte von verschiedenen Fachpersonen beurteilen lässt. Und das ist also drastisch, was sich da zeigt. Dass, nein, die sind überhaupt nicht valide und reliabel und überhaupt, also das objektiv nicht. Das ist sicher so. Aber vielleicht kann man sagen, wenn man jetzt am Ende einer Schullaufbahn bei irgendeiner Note gelandet ist, nachdem man irgendwie, wie viele Prüfungen waren das? 60, oder? Und jetzt macht man das auf die ganze Schulzeit, dann ist man in der 9. Klasse. Vielleicht kann man dann durch die Masse ein bisschen etwas mehr sagen. Aber nein, die sind natürlich überhaupt nicht valide, klar nicht.
Okay, vielen Dank. Nathalie, votre opinion sur...
C'est pas mon opinion, c'est un article de 2023 de Norman et Hall qui faisait un bilan des tentatives pour se passer de notes qui ont été faites dans le monde. Et en gros, les propositions qui ont été faites, c'est avoir une évaluation continue qui soit basée sur l'auto-évaluation de l'élève, l'évaluation par les pairs et l'analyse réflexive. Une évaluation réussie ou échec par critères extrêmement bien définis, qui a pour objectif de savoir si les prérequis sont acquis, si le savoir-faire est fonctionnel, et tout ça dans un recueil dans un référentiel de compétences. Et ça marche s'il y a des feedbacks. Donc, c'est vraiment ce qui ressort de cette étude, c'est qu'il faut des feedbacks individuels, fréquents et détaillés sur ce type d'évaluation pour que ça fonctionne. Pour une même compétence, on utilise des sources différentes pour évaluer la même compétence. Donc, on l'évalue plusieurs fois, mais dans des contextes différents. Utiliser des mesures différentes pour une même compétence, pas mesurer toujours la même chose. Et le dernier point, c'était valoriser la créativité, la pensée autonome et critique, les connaissances acquises en dehors de l'école. Et surtout, ce qui ressort, c'est que de ce système de valider ou pas valider, ça favorise un comportement de l'apprenant qui est d'essayer. Et c'est pas grave si on rate, parce qu'on peut réessayer. Et que ça favorise l'apprentissage, ce comportement de j'essaye, j'arrive pas, je réessaye, j'arrive, ah j'ai compris un truc, ça marche. Hein. Et il y a une étude de Pulfrey qui a été faite en 2013 en Suisse, où ils ont comparé trois groupes sur une année scolaire, un groupe qui n'avait pas du tout de notes et qui avait ce type de feedback sur des critères détaillés. Un groupe qui avait les notes traditionnelles et un groupe qui avait un système de notes mais type ABC, donc assez peu détaillé, etc. Eh bien, il n'y a pas de différence de performance chez les apprenants à la fin de l'année. Ils apprennent tous de la même façon. Donc, mais par contre, la motivation était bien supérieure dans le groupe qui n'avait pas reçu de notes. Les enseignants disaient que le rapport aux parents était plus facile. Voilà. Et il y a des études qui montrent que ça favorise l'apprentissage tout au long de la vie. D'acquérir ce comportement face à l'apprentissage où on ose essayer pour pouvoir apprendre. Voilà. Mais ça, c'est la recherche, c'est pas moi.
Voilà. Darf ich da noch was
ja,
ergänzen?
Ja, natürlich.
Ich würde gerne noch darauf hinweisen, oder weil das Schreiben auch noch genannt wurde, das Hauptproblem ist eigentlich immer dort, wo der Interpretationsspielraum zu groß ist. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Und jetzt kann man natürlich versuchen, diesen Interpretationsspielraum möglichst klein zu machen. Das gelingt teilweise auch, da sind wir auch dran mit dem Schreiben, indem wir nicht nur Kriterien einsetzen, wir haben dann Deskriptoren, jetzt können wir den Interpretationsspielraum noch kleiner machen, indem man sogenannte Benchmark-Texte dazu baut. Und dann kriegen wir auch, das sehen zumindest in der Forschung, enorm hohe Übereinstimmung. Das geht. Aber ich möchte doch auch noch darauf hinweisen, das löst einige Grundsatzprobleme immer noch nicht. Wir haben immer noch einen Bias drin, wenn es um den Präsentationseffekt geht. Wir haben immer noch den Bias drin in den Schulen, dass Lernzuschreibungen passieren, wo sie nicht sein sollten. Das heißt, auch wenn wir alternative Beurteilungsformen entwickeln, ist die Hauptarbeit immer noch daran, auch, dass dieser Bias nicht passiert, egal wie gut unsere Beurteilungsinstrumente sind, dass wir nicht alle Probleme lösen.
Vielen Dank.
Oui, alors dans cette suite, enfin dans la même optique, j'ajouterais peut-être l'exemple du Québec et puis l'exemple de Genève. Enfin, prenons un exemple de Suisse. N'est-ce pas que à Genève, il y a eu le mouvement de supprimer la note il y a quelques années, et puis après, les parents, c'était les premiers qui ont été mobilisés pour qu'on revienne en arrière. Quand il y a eu la décision de supprimer la note ou en tout cas de passer à une autre modalité d'évaluation à travers l'observation, dont je suis vraiment fan, parce que je trouve que l'observation, c'est vraiment une modalité d'évaluation très proche à l'élève et puis ça lui donne une autre place. J'enseignais à l'époque au Québec et je me rappelle que on avait reçu de la commission scolaire des grilles d'évaluation très très détaillées avec des critères et des indicateurs qui étaient extrêmement bien travaillés. Et j'avais évalué, moi, les élèves pendant 2 ans en utilisant ces grilles d'évaluation. Et après, ça a été arrêté. Pourquoi ? C'est parce que ces grilles-là sont élaborées avec avec un vocabulaire pédagogique très travaillé, très élaboré. Ça fait sens pour les enseignants, mais ça ne fait pas sens pour les parents. Ça ne fait pas sens pour les autres institutions qui vont accueillir les élèves suite à leur parcours, etc. Et la note, bien que je sois pas convaincue de ce que ça communique, comme je l'ai dit avec mon exemple tout à l'heure, Et là, une fonction sociétale. On est obligé d'avoir une mesure. Pour l'instant, on n'a pas trouvé une mesure qui est meilleure que la note. Mais il ne faut pas s'arrêter sur les pour ou les contre, les arguments pour ou contre la note, mais surtout de comprendre le processus de la construction de la note. Pourquoi j'arrive à un 4,5 pour un élève, à 4,5 pour un autre élève, et puis quel feedback je vais lui donner pour lui dire quels sont les objectifs à travailler, différents, parce que ce n'est pas parce qu'ils ont eu 4,5 qu'ils ont atteint les mêmes objectifs ou ils doivent travailler les mêmes. Et donc, pour répondre à la question, je pense qu'une mesure, on en aura toujours besoin aussi pour répondre aux besoins de la société. Et ces méthodes d'évaluation alternatives, elles sont très bien, mais pour autant qu'elles soient intégrées dans le contexte de la classe, qu'elles soient accessibles à tous les enseignants, qu'elle soit accessible à la famille aussi, parce que quand on parle des élèves allophones, on devrait aussi mettre l'accent sur l'intégration de l'élève dans l'école, dans la classe et puis dans l'école, dans le pays d'accueil, mais cette intégration-là ne se fera jamais sans la participation des parents, sans la collaboration avec les parents. Et c'est pareil pour les parents, s'ils ne collaborent pas avec l'école, l'intégration de le pays d'accueil prendra beaucoup de temps.
Merci beaucoup. Es war eine ganz, ganz spannende Dinge wie Selbstbeurteilung, Peer-Feedback, laufende Beurteilung haben wir jetzt gehört. Auch einige Beispiele aus Studien. Das ist alles sehr spannend. Wenn ich jetzt aber ein bisschen auf die Zeit auch schaue, würde ich sagen, gehen wir noch wahrscheinlich noch zur letzten Frage unserer Diskussionsrunde, bevor wir dann die Fragerunde aus dem Publikum eröffnen. Auch hier wieder etwas, was schon erwähnt worden ist, diesen Konflikt Russland-Ukraine. Seit dem Aufkommen dieses Konflikts hat man wirklich in der obligatorischen Volksschule feststellen dürfen, dass viele Kinder und Jugendliche, insbesondere eben aus diesen Krisengebieten, eben Zuflucht hier in der Schweiz gefunden haben. Das ist eine neue Situation. Constanze hat es ja auch schon erwähnt gehabt. Es sind Kinder und Jugendliche, die heute nach einer Eingewöhnungszeit die reguläre Schule besuchen und integrativ gefördert werden. Das oberste Ziel lautet für alle, sie auf die Zeit nach der obligatorischen Schule vorzubereiten und auf diesem Weg angemessen zu begleiten. Auch der Europarat, der setzt sich außerdem klar für die Aufwertung dieser Mehrsprachigkeit ein, haben wir auch zu Beginn von Frau Möckli gehört, da Kinder, die mehrsprachig aufwachsen, ja eine wichtige Ressource darstellen. Gleichzeitig haben wir aber hier auch das Problem, dass die geringe Kompetenz der Schulsprache aufgrund des bestehenden Selektionsverfahrens, haben wir auch schon gehört, zu Stolperfalle für manche Schülerinnen und Schüler wird. Wir haben ja diese kontroverse Situation und aus dieser kontroversen Situation entsteht eigentlich die Frage, wie kann man als Lehrperson oder als Schule einerseits diese wertvolle Mehrsprachigkeit fördern und unterstützen, aber andererseits setzt unser Bildungssystem gerade bei Übertrittsentscheidungen, haben wir ja auch schon ein bisschen angetönt heute, gewisse Grenzen, weil bestimmte Kriterien vorgegeben und definiert sind. Also wie geht man mit dieser Situation um? Vielleicht, Frau Stumm, darf ich Ihnen das Wort übergeben als Erste?
Das ist jetzt gerade die schwierigste Frage. Ja. Ja, ich weiß nicht, wie man das wirklich nutzen kann oder auch fördern kann. Ich bin auch nicht sicher, ob man das auf Mehrsprachigkeit reduzieren kann, ob man nicht, es wurde ja schon mehrfach angesprochen, auch die kulturellen Praktiken spielen ja eine ganz wichtige Rolle. Und mir scheint, dass wir das zum Teil zu wenig im Blick haben. Sie verfügen vielleicht auch über die Fähigkeit, in ihrer Ehrsprache ganz vieles zu tun, was bei uns auch wichtig ist. Aber vieles können sie vielleicht nicht zeigen, weil sie diese kulturellen Praktiken nicht kennen. Und wenn sie diese nicht kennen, dann können wir noch so viel mit Mehrsprachigkeit haben. Ich komme da nicht dran. Ich hatte, um die Anekdote zu ergänzen, mit einer Dozentin aus Bayern Kontakt, die sehr viele ukrainische Geflüchtete haben. Und sie hat mir erzählt, dass sie den Lehrplan in der Ukraine genau studiert hat und auch mit den Schülern gesprochen hat und zum Beispiel festgestellt hat, dass es so etwas wie dialogische Unterrichtsgespräche nicht gibt. Das heißt, mit unseren Mitteln, die wir so haben, kommen wir auch nicht dran, weil wir gar nicht auf dem Bildschirm haben, dass diese Schüler schon das nicht kennen, beziehungsweise sie sind sich auch nicht gewohnt, solche Diskussionen zu führen. Und dann haben sie aber auch diese sprachlichen Mittel nicht. Die haben sie auch in ihrer Erstsprache dann nicht. Das heißt, ich glaube, wir müssen uns auch mehr Gedanken darüber machen, was diese kulturellen Praktiken auch sind. Und wir müssen auch viel mehr Wissen haben, was dort in ihren Lehrplänen gefordert wird und was nicht.
Damit man sie dann adäquat fördern kann.
Genau.
Vielen Dank, das klingt spannend. Herr Schneider, was sagen Sie dazu?
Also ich bin nicht sicher, ob wir mit dem Blick von außen die Praktiken verstehen können, die in einer anderen Kultur sich abspielen. Und wenn man jetzt sagt, da gibt es keine Dialogizität, dann weiß ich nicht, ob das stimmt. Weil es ganz viele Studien gibt, jetzt nicht in diesem Bereich, aber wo man von außen etwas nicht sieht, aber es spielt sich trotzdem etwas ab, was die gleiche Funktion erfüllt, vielleicht wie ein Dialog. Müsste man, glaube ich, mehr darüber wissen. Ich meine, letztlich zielt ja die Schule auf einen Beruf ab. Also wenn wir jetzt vom Wissen und Können her denken. Und die Berufe spielen sich zu einem großen Teil in einer der Landessprachen ab. Und von daher, glaube ich, sollten wir bei aller Sympathie für die Valorisierung der Mehrsprachigkeit nicht vergessen, dass es letztlich darum geht, dass Menschen in einer Landessprache sich beruflich ausdrücken können. Und das sage ich jetzt natürlich als Deutschdidaktiker, das ist halt jetzt in der deutschen Schweiz das Deutsche und das hat eine andere Stellung, finde ich, als die Fähigkeit, mehrere Sprachen zu beherrschen. Das ist eine wichtige Fähigkeit, ich bin sehr zugetan der Förderung der Mehrsprachigkeit, aber man darf nicht vergessen, dass diese Förderung vielleicht nicht dazu führt, dass die Menschen, die mehrsprachig sind, dann auch bessere berufliche Chancen unbedingt haben am Schluss. Vielen Dank. Außer in Bereichen, wo es die Mehrsprachigkeit wirklich auch braucht. Natürlich, die gibt es natürlich, oder? Klar.
Natürlich. Pour conclure, Nathalie, comment un enseignant ou une école peut-il d'une part encourager et soutenir ce précieux multilinguisme et d'autre part notre système éducatif établit certaines limites, notamment lors des décisions de passage, car certains critères sont prédéfinis et définis. Comment aborder une telle situation controversée?
Je crois que je vais mettre de l'eau dans le moulin de la controverse. Okay. je pense que on n'est pas tout à fait transparent sur à quoi sert l'école. Et si l'école sert vraiment à former des citoyens et à développer des enfants, elle ne sert pas à sélectionner. J'en dirai pas plus. Et quant au plurilinguisme, j'ai souvent l'impression que le plurilinguisme qui nous intéresse est très ethnocentré, voire centré économiquement, et qu'on est intéressé par le plurilinguisme des langues qui ont une valeur économique. Mais savoir qu'une partie de population parle le tigrinya, je suis pas sûre que ça intéresse beaucoup de gens. Mais maintenant, je n'en dirai pas plus.
Merci beaucoup. Costanza, pour conclure.
Pour conclure, je pense que voilà, le débat d'aujourd'hui, ce n'est pas d'être pour ou contre la note ou pour ou contre l'école. Je crois que c'est des décisions qu'on ne prendra pas, enfin, que nous, on ne prendra pas ce soir. Par contre, je pense qu'on a le pouvoir et la puissance de changer quelque chose dans nos pratiques évaluatives. Et ça, j'ai vraiment confiance et je suis très optimiste qu'on peut le faire. Chacun de nous peut le faire, en fait, dans les classes. C'est pas grave si on n'est pas d'accord avec le fait d'être pour ou contre la note. Mais on le sait que le processus de la construction de la note m'appartient. C'est pas juste l'évaluation sommative à un moment donné, à la fin de la séquence, comme on peut la retrouver facilement dans les pratiques évaluatives. Mais c'est l'observation, l'engagement de l'enseignant, l'engagement de l'élève, pardon, la progression surtout. On n'a pas beaucoup parlé de la progression parce que le débat, voilà, ça s'est organisé comme ça et puis c'est très bien parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais la progression de l'élève, c'est ça, c'est là qu'on doit se focaliser. D'où il parle, enfin, quelles étaient ses compétences linguistiques quand il est arrivé? zéro, où il connaissait peut-être quelques mots, et puis finalement, qu'est-ce qu'il sait faire après 3 mois, ou après 3 ans, ou après 3 semestres, etc. Et je pense que si on se met d'accord sur le fait que ces pratiques évaluatives-là, on a la liberté, avec la grande volonté, et puis l'ouverture de donner une place centrale à l'élève dans son apprentissage, je pense qu'on peut vraiment changer la vie à beaucoup d'élèves. En tant qu'élève allophone, je peux le dire que c'est les enseignants qui changent la vie.
Très bien, merci beaucoup. Ça war ein sehr schönes Schlusswort. Gerade dieses Zitat, Prozess, diesen Prozess zur Konstruktion einer Note gehört ja den beteiligten Lehrpersonen. Also wir haben ja, also wir als Lehrperson, sage ich mal, haben die Macht, etwas zu verändern. Ich denke, eine Diskussionsrunde zum Thema Beurteilung könnte noch viel länger dauern. Man könnte wahrscheinlich ganz, ganz viele Diskussionsrunden quasi füllen mit diesem Thema. Nichtsdestotrotz vielen Dank zuerst einmal allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für diese spannenden Beiträge. Die Zeit jetzt für die Diskussion ist um. Ich würde sehr gerne jetzt das Wort dem Publikum übergeben. Die Fragerunde wäre damit eröffnet.
Merci beaucoup à tous les intervenants pour la qualité des échanges. Merci à vous aussi, Luciano, pour la gestion active et enthousiaste de la table ronde. Je vous salue également de la part de Patrick Croix, notre doyen de la recherche et développement, qui est aussi actif dans le CEDILE, qui a excusé ce soir et qui vous transmet les cordiales salutations. J'aurai 2 questions que je vous laisserai vous répartir au sein de la table ronde. La première question concernerait les différentes formes de l'évaluation. Effectivement, comment pourrions-nous jongler avec les types d'évaluation? Alors, on insiste beaucoup sur le certificatif, mais il y a la différenciation qui a été évoquée aussi au travers de quelques interventions, le prédictif. Donc, comment on peut jongler avec ces différentes formes d'évaluation pour répondre au mieux aux besoins de toute la classe, la diversité de la classe dans ses différentes individualités, mais aussi aux besoins spécifiques des élèves allophones? Ça serait la première question sur comment peut-on, en tant qu'enseignant, jongler, valoriser, répondre au mieux avec cette souplesse que nous donnent les différentes formes d'évaluation durant les 4 mois initiaux, mais aussi après. Et le deuxième point, ça serait effectivement sur l'importance de la lecture. Alors, je me tourne un peu plus vers vous, mais ça pourrait être une question pour l'ensemble de la table ronde. On sait à quel point la lecture joue un rôle essentiel dans l'évaluation de tous les élèves. Comment je peux accéder au contenu de l'évaluation? On parle en maths sur la lecture d'un problème, à quel point ça conditionne la compréhension du problème et de la réussite du problème, hors évaluation et dans l'évaluation. Donc, comment pouvons-nous, en tant qu'enseignants ou formateurs d'enseignants, faire en sorte que la lecture puisse être aussi, les compétences d'acquisition de la lecture, de maîtrise de la lecture, puissent être travaillées par les élèves allophones de telle sorte à ce que ce ne soit pas un biais, un frein ou vraiment un poids pour eux, pour accéder simplement à la composante de l'évaluation? Parce que souvent, ce n'est pas les compétences qui posent souci, elles les ont, mais c'est souvent l'accès à la compréhension du problème ou de la tâche à réaliser. Donc voilà, jongler avec ces différentes formes d'évaluation et puis comment peut-on favoriser la lecture en langue 2, 3, 4 pour les élèves allophones de telle sorte que ça soit, comme pour les autres élèves, pas forcément un frein pour l'accès à la tâche qui est dans l'évaluation. Donc je vous laisse vous répartir les réponses comme bon vous semble, mais merci beaucoup en tout cas de vos réponses.
Je répondrai à la deuxième partie qui est la lecture. Tu sais que moi, je suis quelqu'un qui est fasciné par la phonologie. Et je crois qu'effectivement, on travaille très, très peu la phonologie. Et on travaille très, très peu le lien entre l'oral et l'écrit. Et je crois que là, il y a quelque chose à penser pour les élèves allophones, parce que c'est une grande difficulté, en français notamment, qui est une langue opaque, ce lien entre l'oral et l'écrit. Je pense que ce dont on a parlé tout à l'heure par rapport aux consignes, c'est effectivement des choses qu'on peut faire qui sont simples. Donner systématiquement des exemples, formuler, reformuler la consigne à l'oral. Je me souviens avoir eu une discussion avec des enseignants de mathématiques et en leur disant, mais le problème, c'est un problème linguistique, c'est pas un problème mathématique. Et ils me répondaient, oui, mais si j'écris en écriture simplifiée, alors il y a plus de problème mathématique. Et moi, lui disant, mais s'il y a plus de problème mathématique, c'est qu'il sait le résoudre, le problème mathématique. Donc c'est pas en mathématiques qu'il y a un problème. Mais un dialogue de sourds, je veux dire, à ce niveau-là. Donc je crois qu'il y a quelque chose à travailler là. Notamment par rapport au contenu disciplinaire, sur les autres façons d'accéder au contenu disciplinaire. Voilà.
Alors, je pourrais répondre à la première question. Je vais répondre avec le postulat de Burns que nos étudiants et étudiantes, enfin, ils ont l'occasion de découvrir, en tout cas dans les cours d'évaluation. Il n'y a pas deux apprenants ou apprenantes qui progressent à la même vitesse. Il n'y en a pas deux apprenants qui soient prêts à apprendre en même temps, qui utilisent les mêmes techniques, qui vont résoudre les problèmes exactement de la même manière, qui possèdent le même répertoire de comportements, qui possèdent le même profil d'intérêt ou encore qui vont atteindre, qui seront motivés pour atteindre les mêmes buts. Quoi de neuf pour les élèves allophones ? Tous les élèves sont pareils. Il n'y en a pas deux qui vont progresser à la même vitesse, qui vont apprendre en même temps, etc. Par contre, par rapport à la différenciation, donc le terme que tu as utilisé et que je trouve que c'est vraiment très important, c'est de différencier les évaluations. Ça, ça peut être vraiment un bon point et une pratique et des stratégies à développer par rapport à cela. Qu'est-ce qu'on peut différencier grâce au numérique, par exemple, les contenus enseignés, évalués, les processus aussi. On peut encore diversifier l'organisation du travail ou encore les productions des élèves. Donc, encore une fois, je mets l'accent sur le fait que les enseignants, ils ont une grande marge de manœuvre par rapport à toutes ces décisions prises.
Merci beaucoup. Si ça fonctionne. Je rebondis directement. Nathalie, en fait, je voulais te poser une question, mais du coup, tu parles de différenciation. Constanza, à l'instant, et toi, Nathalie, j'ai l'impression, sans le dire, que tu as parlé de conception universelle des évaluations. CUE, ça m'a fait penser aux touches des vieux lecteurs de cassettes, et puis ça va de l'avant. J'ai bien aimé. Alors, je ne sais pas si c'est une question ou une remarque. On conçoit de manière universelle les évaluations, et donc tous les élèves en profitent, et ça n'empêche pas les meilleurs, comme dans la CUA, ça n'empêche pas les meilleurs d'être évalués sur leurs compétences réelles, etc. Ou on fait après coup, et plutôt du côté de la différenciation. Ce dont j'étais pas conscient avant que tu le dises, c'est le fait que pendant les deux années, ils ont des évaluations critériées. Donc voilà, je trouve ça très intéressant en fait, et c'est toujours cette dualité entre anticiper, donc conception universelle, et puis réagir et différenciation. Voilà, je trouvais ça intéressant, et donc peut-être c'est ma question pour finir. Ça, et après tu parles d'évaluer, donc d'évaluation critériée sur les référentiels de compétences, donc j'entends forme et fond. On anticipe, ce serait entre guillemets la forme, et on travaille avec les référentiels de compétences, c'est le fond. Pourquoi tu dis que les référentiels de compétences...
En fait, c'est une discussion qu'on a eue avec les inspecteurs d'académie du canton de Fribourg, et puis il y avait des directeurs d'école, etc. Tout le monde était assez favorable à passer toute l'école sur cette évaluation critériée. Et les enseignants qui étaient là, ils disaient « Oui, mais on n'a pas le détail, par exemple, avec les nouveaux moyens d'enseignement. » Et on n'a pas quelque chose clé en main à appliquer pour pouvoir dire « Ok, sur ce parcours, les critères, c'est ça, etc. » Et donc, ils disaient « C'est impossible à faire parce que c'est trop de travail pour nous. » Mais ils n'étaient pas contre, a priori. Voilà, il y avait plutôt cette volonté d'aller vers l'école inclusive et d'aller vers ça, sauf que les choses n'étaient pas prêtes pour essayer ça.
Ah ok, je comprends, c'est la déclinaison du PER et des objectifs inutilisables du PER en objectifs utilisables. Ok,
c'est
bon, ça marche. Merci.
Bonjour, merci beaucoup pour toutes les discussions. Il y a une chose qui m'a apparue en vous écoutant tous, c'est qu'on a déjà autour de la table des conceptions différentes de l'évaluation, et notamment une qu'on pourrait caractériser de plutôt suisse alémanique et une de plutôt de suisse romande. Les uns forment pour un métier, les autres forment des citoyens, et donc avec des implications complètement différentes aussi, si j'ai bien suivi et là on parle de intégrer aussi d'autres formes d'évaluation, notamment d'autres formes culturelles d'évaluation. Alors qu'effectivement, moi j'ai travaillé des deux côtés, hein, et il y a des différences en Suisse qui sont énormes dans l'évaluation. Déjà, est-ce que c'est pas le but de l'école aussi d'enseigner aux élèves, où qu'ils soient, que voilà, ici ça marche comme ça, pour qu'ils puissent s'intégrer, en fait, tout simplement au système dans lequel ils doivent s'intégrer, dans lequel ils vont devoir montrer, justement, que ce soit avoir des notes ou avoir des critères, mais au bout du compte, c'est quand même dans la langue de scolarisation qu'ils vont devoir faire leurs preuves malgré tout. Et est-ce qu'il y a des moyens de justement tout simplement leur enseigner comment fonctionne une évaluation technique, vraiment les techniques de test? Est-ce que ça pourrait être une solution? Comme ça permettrait aussi de faire la différence entre Suisse alémanique, Suisse romande, et puis après les évaluations peut-être sans dialogue ou avec dialogue. Alors c'est moitié une question, moitié un commentaire. Hein. Je ne sais pas si vous voulez répondre.
Moi, je voudrais juste dire une chose, c'est le contexte dans lequel je travaille sur le terrain pour mes recherches. Il y a 80% à peu près d'élèves qui sont allophones dans la classe en EH quand ils rentrent. Et il y a une dizaine, douzaine de langues différentes, que des langues qu'on ne maîtrise pas, même pas nous les linguistes. Hein. Et c'est compliqué avec les interprètes parce que justement, il ne s'agit pas d'une traduction, il s'agit d'une interprétation qu'on attend de l'interprète. Et rentrer dans ce détail-là, c'est pas un détail, ce serait tellement important de le faire, mais on voit ce qui revient du terrain, c'est qu'il y a tout de suite des difficultés qui sont d'ordre culturel, qui sont d'ordre communicationnel, qui sont d'ordre financier, combien de temps, combien de fois on l'interprète. Et donc, il y a des actions qui sont mises en place. Hein. Par exemple, ils ont organisé une pré-visite de l'école avec les parents avant de rentrer en EH. Et ça a été mis en place l'année dernière et ça s'est très bien passé. Ça a eu les enfants qui sont rentrés après en EH allophone. Parlaient toujours pas la langue, mais au moins ils avaient déjà vu l'école, ils avaient déjà vu les gens. Il y avait des interprètes pour parler aux parents, puis leur dire bah voilà, l'école ici c'est comme ça, les enfants et les parents rentrent pas, les enfants rentrent tout seuls, etc. Enfin, tout un des choses très très concrètes. Donc effectivement, il y a quelque chose, je crois, à faire dans ce dialogue avec les familles, mais c'est vraiment pas facile.
Oui.
Voilà.
Ah oui, ça, je dis pas. Et puis effectivement, pour les enseignants devant la classe, il faut aussi trouver les solutions. Sur le moment, et ça ne vient pas forcément tout seul.
Ja, vielleicht noch kurz. Als ich vorhin gesagt habe, dass man die anderen Kulturen nicht so ganz leicht von außen versteht, habe ich nicht an den Fall gedacht, dass ich als Deutschschweizer die französischsprachige Schweiz nicht so gut verstehe. Aber das ist natürlich wahr. Das wird jetzt sehr deutlich. Vielen Dank für den Hinweis.
Oui, alors je souhaiterais juste ajouter, enfin je vous rejoins parfaitement dans cette réflexion, parce qu'effectivement ces élèves, ils ne sont pas juste les élèves qui sont différents. Donc il ne faut pas miser que sur leurs différences ou sur leurs difficultés. D'ailleurs, toutes les recherches ou les rencontres que j'ai pu faire avec ces élèves-là, récemment d'ailleurs lors d'une journée qu'on a organisée à l'HEP en mois de novembre, ces élèves, ce qu'ils souhaitent, c'est intégrer les classes ordinaires au plus vite. Et on ne va pas les intégrer dans les classes ordinaires ou on ne va pas mettre en place ce processus d'intégration, parce que ça c'est un processus quand même, si on essaie vraiment de les accommoder plus dans les difficultés ou dans la diversité, etc. Oui, il faut vraiment qu'on leur donne, qu'on les munit d'outils à travers l'évaluation notamment, pour comprendre qu'est-ce que c'est une évaluation et de cette façon découvrir le système scolaire, la classe, le fonctionnement de l'école. C'est comme ça qu'on les aide. Et c'est ce qu'ils disent aussi en fait, même après quelques années quand on les rencontre.
Là, je peux jeter un autre pavé dans la mare. Hein. Je crois que ce soir, j'ai fait ce rôle-là. Mais quand on discute avec les parents et avec les allophones qui ont grandi, tous disent que leur premier objectif, c'est pas la langue d'origine, hein, c'est d'apprendre la langue de scolarisation.
Margot Zata, qui avait dit ça aussi il y a quelques années, dans une conférence, ça m'avait beaucoup marqué. Parce que c'était effectivement le premier but, c'est de s'intégrer à la société dans laquelle on arrive. Ouais. Une autre chose que je me demandais aussi, c'est qu'on a beaucoup parlé de l'opacité de la langue de scolarisation, notamment au niveau des consignes, mais ça, c'est aussi le lot de tout un tas d'élèves de langue une, on va dire, et qu'il faut intégrer tout autant, avec lesquels il faut tout autant apprendre à lire des consignes. Et parfois, c'est vrai que la limite me semble assez ténue, en fait.
Mais à mon avis, il n'y a pas de limite à avoir. C'est l'école inclusive. Et réfléchir, nous, de notre côté, qu'est-ce qu'on peut faire pour que tout le monde ait accès à. Et ça n'empêche pas ceux qui sont plus avancés d'aller plus loin, mais ça permet à tous de participer avec ce qu'ils peuvent. Et je crois que cette définition universelle des apprentissages et des moyens d'apprentissage, c'est quelque chose auquel on doit réfléchir, parce que l'injonction politique, c'est l'école inclusive. Et c'est vrai que là, j'étais dans une classe où quand vous avez 80% d'élèves qui sont des L2, plus un élève autiste qui peut hurler pendant 2 heures pendant que vous faites classe, plus un élève malvoyant, il y a un moment donné, vous vous dites, mais comment elle fait la maîtresse? Enfin, moi, c'est la question que je me suis posée. Je me suis dit, waouh, chapeau pour... Voilà. Donc, aujourd'hui, quand même, on va vers l'école inclusive et sur le terrain, on n'a pas encore adapté nos façons de faire. Et il faut, on peut réfléchir à ça. Il y a des outils, il y a des choses qui se mettent en place et il faut qu'on teste maintenant. Il faut qu'on voit si ça marche. Il faut qu'on voit si les solutions qui sont proposées fonctionnent réellement. Il faut qu'on aille voir ce qui se passe, quoi.
Sehr gut. Dann würde ich das Wort noch übernehmen. Wir haben fast eine Punktlandung erreicht, ein bisschen eine Minute drüber. Letztes Mal waren wir wirklich 15:45 fertig. Ich möchte mich nochmals bei allen bedanken. Merci au public qui était là aussi aujourd'hui. Vielen Dank den Expertinnen und Experten von heute Abend. Merci. Merci beaucoup. Danke für die spannenden Beiträge zum Thema Beurteilung, Evaluation. Ich möchte nochmals ganz kurz darauf hinweisen, die nächste und letzte Diskussionsrunde in diesem Cycle de Conférence findet am 15. Mai statt. 13. Entschuldigung, danke. Eben, ich habe es mir doch nicht ganz richtig notiert gehabt. Den 13. Mai natürlich zum Thema Maturité. Moderation wird wahrscheinlich Frau Giulia Berchio dann übernehmen. Ich lade alle ganz herzlich noch ein, oder wir laden alle ganz herzlich noch zum Apéro ein. Vielen Dank nochmals. Merci beaucoup.
Die Diskussionsrunden aus Freiburg.
Die Table Ronde de Fribourg.
Fremdsprachendidaktik.
Didaktik des langues étrangères.